La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Alors, chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Le 24 juillet 2017, nous avions la chance et le bonheur de célébrer les 50 ans du Vive le Québec libre du général de Gaulle. L'événement a suscité un grand intérêt dans les médias, et de manière assez étonnante d'ailleurs, dans une société qu'on dit indifférente à la question nationale, le rappel du Québec libre, à tout le moins, a suscité certainement l'intérêt et peut-être même les passions. Mais nous connaissons la formule « Vive le Québec libre », connaissons-nous plus largement la signification de l'engagement du général de Gaulle par rapport au Québec? Connaissons-nous la vision du Québec du général de Gaulle? Que connaissons-nous plus largement de l'histoire du Québec libre? Pour en parler, je recevrai aujourd'hui Christophe Tardif, qui vient de signer aux éditions du Cerf La dette de Louis XV, où il nous raconte finalement l'histoire du Québec libre, l'inscrit dans l'histoire de la philosophie gaullienne, de la politique gaullienne, et nous propose aussi une forme d'introduction à l'histoire du Québec pour voir comment finalement la lecture du général de Gaulle croisait l'histoire du Québec dans ses tendances d'autres, dans ses tendances propres. Christophe Tardif, bonjour.
Bonjour.
Alors, une première question, vous écrivez la dette de Louis XV et vous inscrivez le Vive le Québec libre dans l'histoire plus vaste de la philosophie gaullienne. Alors, question toute simple, qu'est-ce qui amène le général de Gaulle à prononcer ces quatre mots qui ont marqué non seulement l'histoire du Québec, mais peut-être un peu l'histoire du monde, le 24 juillet 1967.
Je pense que ça a marqué l'histoire du monde, en effet, hein, puisque dès le lendemain, tous les journaux de la planète évoquaient ce cri libérateur que De Gaulle avait lancé depuis le balcon de l'hôtel de ville. En fait, je pense que De Gaulle, en l'espèce, a poursuivi deux buts. Le premier but, qui était pour lui un but essentiel, c'était de poursuivre sa politique étrangère, d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis du pouvoir communiste et vis-à-vis du pouvoir américain. L'anticommunisme communisme de De Gaulle ne fait naturellement aucun doute. Il a toujours lutté contre le communisme. Parlons d'ailleurs, considérant que ce communisme finirait bien un jour par être dissous par l'histoire, puisqu'il disait les Russes, il disait pas les soviétiques ou les communistes. Et donc, De Gaulle, de ce côté-là, n'avait naturellement aucune difficulté à l'admettre. Mais en revanche, De Gaulle était naturellement extrêmement vigilant, voire hostile à la politique américaine, à l'hégémonisme américain, à l'impérialisme américain. Un an avant, il l'avait dit de façon éclatante à Phnom Penh, où il dit que les États-Unis vont perdre la guerre du Vietnam. On est en 1966, donc c'est quand même déjà la preuve d'un talent incroyable de visionnaire du général. Et donc, en venant au Québec, De Gaulle se dit qu'il est très important pour sa politique étrangère d'essayer d'inscrire un fait français en Amérique du Nord. Donc je pense que le premier but, il était là. C'était un but géopolitique, c'était de faire en sorte que De Gaulle avait compris que le Québec se développait à une allure absolument incroyable depuis la Révolution tranquille. Et il s'était dit que c'était pour lui une excellente occasion de dire, voilà, il y a un fait français, il y a des francophones en Amérique du Nord et je veux aller les soutenir. Et puis naturellement, il y avait forcément chez De Gaulle, en venant au Québec, cette idée de dire qu'il allait réparer la lâcheté des rois de France qui avaient signé le traité de Paris en 1763. Mais il ne faut pas non plus oublier le traité d'Utrecht signé par Louis XIV qui a totalement abandonné les Canadiens qui ont été ensuite victimes d'un génocide perpétré par les Anglais. Et surtout, dans Utrecht, dans le traité d'Utrecht, il y a finalement la fin du Canada français, puisqu'on voit bien que le verrou de Terre-Neuve, du golfe du Saint-Laurent, saute tous les uns après les autres, et que le Canada français est de toute façon condamné à l'envahissement. Donc De Gaulle se dit, allez au Québec, c'est peut-être aussi pour moi la dernière occasion de réparer cette lâcheté des rois.
Alors, il arrive ici, il dit, on connaît le Vive le Québec libre, cela dit, il fait une série de discours, donc de Québec à Montréal, et dans votre livre, vous soutenez que si Vive le Québec libre sont les quatre mots indispensables qui donnent tout le sens de ce voyage, le discours le plus important peut-être est prononcé à Québec, et oui, il a moins porté d'importance historiquement. Pourquoi dites-vous que ce discours est le plus important, est-ce que c'est parce que le général livre le fond de sa pensée dans ce discours, est-ce qu'il va plus en profondeur. Qu'est-ce qui vous amène à dire que finalement le sens du Vive le Québec libre finalement s'éclaire par le discours de Québec?
D'abord parce que le discours de Frontenac est un discours écrit par De Gaulle. Et comme le disait Perfit, il ne disait rien qui n'ait été préalablement écrit, il n'écrivait rien qui n'ait été préalablement pensé. On pourrait inviter beaucoup d'hommes politiques à suivre ce conseil. Et donc le discours de Château-Frontenac, il est écrit alors que celui de l'Hôtel de Ville a été improvisé, puisqu'il n'était pas prévu que De Gaulle parlât ce soir-là. Et dans le discours de Château-Frontenac, il y a toute la thématique gaullienne de sa vision des choses par rapport au Canada français et au Québec. Il constate les immenses efforts de progrès, comme il dit lui-même. Il constate que le Québec a profondément changé depuis la Révolution tranquille. Et il dit aux Québécois, écoutez, vous voulez devenir maître de votre destin, vous voulez devenir maître de vous-même, vous voulez justement progresser en ce sens, il va de soi que la France sera à vos côtés, non pas pour vous dicter ce que vous devez faire, mais tout simplement pour vous accompagner dans ce mouvement. Et il dit même, d'ailleurs, que un futur Québec souverain devra avant tout lutter contre ce qu'il appelle l'État colossal voisin, c'est-à-dire naturellement les États-Unis, pour préserver son unité et pour préserver son authenticité.
Alors, il y a chez De Gaulle cette volonté de réconcilier, en fait, de payer la dette de Louis XV, il y a une volonté probablement de marquer les retrouvailles. Hein. C'était le terme de l'époque pour parler de la relation France-Québec. Est-ce que De Gaulle est soutenu par non seulement par ses ministres, mais par toutes les figures politiques importantes qui comptent dans son courant, dans son gouvernement? Est-ce que De Gaulle est compris et est-ce qu'il est soutenu dans son Vive le Québec libre?
Non, il n'est clairement pas soutenu, puisque après avoir dit cette fameuse formule, la moitié de son gouvernement pensera qu'il est devenu sénile et qu'il a été pris d'une forme d'attaque subite. Donc non, il est tout seul. Alors, après, ses plus proches collaborateurs ont parfaitement compris là où De Gaulle voulait aller. Il y a un exemple très connu, c'est la rencontre entre André Malraux et Monsieur Lapalme, qui était le ministre de la Culture du Québec de l'époque, dans lequel Malraux lui dit avec une sincérité désarmante, il lui dit « Écoutez, c'est très simple, on vous a oublié, on vous a totalement oublié, mais vous avez une chance incroyable, c'est qu'il y a un personnage historique à la tête de l'État en France aujourd'hui. » Et donc, on va faire ensemble des grandes choses. Et c'est Malraux qui va suggérer à Lapalme de créer la délégation générale du Québec à Paris. Et c'est ainsi que tout ce processus de coopération va se mettre en place. Mais De Gaulle et quelques collaborateurs sont bien les seuls à voir ce qui est en train de se passer.
On connaît la formule de Pompidou, folie gratuite, pour parler du Vive le Québec libre. La question que je me pose, c'est comment, au-delà de la sénilité supposée du général, comment expliquait-il? Est-ce qu'il voyait là-dedans une forme de délire de l'ego, un anti-américanisme forcené, ou et par ailleurs, ensuite, la France va endosser la politique du général de Gaulle. Et c'est ça qui est étonnant. Tous les présidents, jusqu'à tout le moins à Chirac, même dire, il y a l'intermède de Sarkozy, Hollande va reprendre ça, aujourd'hui on n'en sait rien, mais pour l'essentiel, quand ça comptait, même si la France n'a pas spontanément compris le général de Gaulle, ensuite, il va y avoir un véritable soutien, Pompidou, Giscard, Mitterrand. Comment expliquer ce ralliement inattendu, attendu, tardif, mais à tout le moins certain à la politique du général de Gaulle par rapport au Québec?
Alors, c'est compliqué comme affaire, parce que en fin de compte, Pompidou, en effet, parle bien de folie gratuite. Maurice Couve de Murville, le ministre des Affaires étrangères, inamovible de la Ve République, puis Premier ministre, était sur la même position. Je pense que Pompidou était sans doute un peu atteint du syndrome du bon élève. Et c'est-à-dire que pour lui, les affaires de l'État, c'est quelque chose de sérieux. Et donc, il considérait que le meilleur service que lui, le bon élève, pouvait rendre à De Gaulle, c'était de le mettre en garde contre ce qu'il appelait ses propres foucades. Et il n'avait pas bien compris ce que De Gaulle voulait faire avec le Québec, sans doute parce que De Gaulle était le seul dans son gouvernement à connaître l'histoire du Québec, à connaître l'histoire de la conquête, à savoir ce caractère extraordinaire et admirable de résistance des Québécois à l'occupation anglaise, puis au pouvoir fédéral. Et donc De Gaulle était le seul à connaître cela, et c'est pour cela qu'il a été assez peu compris. Alors après, Pompidou, en effet, quand il devient président de la République, se met totalement dans les pas du général De Gaulle, à la fois par conviction, mais aussi surtout, je dirais, à mon sens, un peu par tactique, parce qu'il avait besoin de démontrer, après la fâcherie qui avait eu lieu entre lui et De Gaulle, qu'il était parfaitement dans les clous, si je puis dire. Quant à Valéry Giscard d'Estaing, alors là, on a une chance incroyable, parce que tout aurait laissé croire que Pierre Trudeau et lui puissent bien s'entendre. Ils tous les deux présentaient très bien, étaient des hommes modernes, ambitieux, etc. Et puis Trudeau va commettre une gaffe irréparable avec Valéry Giscard d'Estaing. À la première rencontre, il va le tutoyer et l'appeler Valéry. Et ça, naturellement, Giscard n'a absolument pas supporté. On n'est pas surpris de le savoir, et a naturellement immédiatement coupé les ponts avec Trudeau. Chirac, dans l'héritage gaullien, naturellement, s'est inscrit dans le sens de soutenir justement ses amis québécois et notamment Jacques Parizeau. Il était en cela bien conseillé par Philippe Séguin, qui est un grand ami du Québec et qui a essayé de jouer un rôle aussi en 1995. Je dois dire que l'intermède Mitterrand n'est peut-être pas celui qui a le mieux permis de développer la relation entre la France et le Québec. Mitterrand était trop viscéralement anti-gaulliste pour accepter quoi que ce soit en la matière. Et après Chirac, en effet, je crains malheureusement qu'il n'y ait pas véritablement de suite dans les idées.
Il y a dans la philosophie du général de Gaulle, vous avez évoqué le discours de Phnom Penh, le discours de Québec aussi, il y a, comment dire, dans l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire d'un côté l'Amérique qui se croit en croisade démocratique contre le communisme, de l'autre côté un empire totalitaire qui effectivement est absolument tyrannique, qui écrase les peuples qu'il a sous sa botte, et De Gaulle n'accepte pas finalement que la France ne soit qu'une province d'Occident pendant la guerre froide. Il n'accepte pas que la France soit simplement une puissance alliée dans le grand bloc occidental. Donc De Gaulle a sa propre vision de la politique étrangère de la France, sa propre vision du rôle de la France dans le monde. Et au cœur de sa vision, je crois, il y a la question, le rôle des peuples, le rôle des nations. Quelle est la vision que développe le général De Gaulle dans ses années au pouvoir du rôle de la France dans le monde? Quelle est la mission qu'il lui prête finalement? Donc sans trahir l'alliance américaine, mais sans s'y aligner complètement, quelle était finalement sa philosophie politique appliquée aux affaires étrangères?
Je pense que sa philosophie politique en matière d'affaires étrangères était qu'il se méfiait terriblement des États-Unis. Et de cette façon, parfois un peu massive, un peu brutale, qu'ils ont à se déployer. Michel Jobert, qui a été ministre des Affaires étrangères sous Pompidou, avait une très belle formule quand on lui disait « Mais est-ce que De Gaulle est anti-américain ?» Il dit « Mais pas du tout. Il n'était pas du tout anti-américain. Il se contentait de les mettre en garde contre leur incroyable naïveté et leur incommensurable stupidité. » Jobert était lui-même assez anti-atlantiste. En fait, je pense que c'est ça qui guide véritablement le général De Gaulle. De Gaulle se méfie des Américains parce qu'il voit bien que leurs solutions ne sont pas les bonnes, qu'ils ne regardent que leurs propres intérêts, et en quittant le commandement intégré de l'OTAN, en voulant doter la France d'une force nucléaire, De Gaulle en la matière voulait avoir démontré que la France était un pays indépendant et qui n'entendait pas se faire dicter sa loi par le plus fort, c'est-à-dire en l'espèce les États-Unis en la matière. Et il voyait bien d'ailleurs les dégâts incroyables que une politique étrangère américaine un peu trop brutale faisait de par le monde, la guerre du Vietnam n'étant à l'époque qu'un des exemples.
De Gaulle a une conception du monde fondée sur le rôle des nations. Est-ce que lorsqu'on prend conscience non seulement de sa position sur le Québec, mais de ses nombreux discours à l'époque, il y a une cohérence profonde dans ce qu'il dit, on va dire, par exemple, quand il va dans les pays de l'Est, et ensuite quand il va en Amérique du Sud, il lance partout ce discours qui valorise l'importance des nations contre les grands, je sais pas contre, mais à tout le moins, et qui relativise l'importance des grands blocs idéologiques, ou cette philosophie l'applique spécialement au cas québécois, au cas vietnamien?
Non, je pense qu'il l'applique de façon assez générale. En fait, ça se passe un peu en deux temps. Le premier temps, c'est De Gaulle va essayer, à partir du moment où il se dégage du bourbier algérien, qui était quand même pour lui un véritable carcan qui l'empêchait de mener toute politique étrangère, parce qu'il ne pouvait se déployer nulle part sans qu'on lui reproche justement cette Algérie française qui, en 1962, était une absolue incongruité politique et historique. Et donc De Gaulle, ce qu'il cherche à faire en allant d'Amérique du Sud, quand il prononce son fameux discours à Mexico en parlant de la mano et la mano, lorsqu'il va en Pologne en 67, d'ailleurs un peu après son voyage au Québec, ou lorsqu'il va en Roumanie en 68, il essaye d'inciter les pays à se détacher des deux grands blocs, en leur disant mais il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Il y a peut-être un équilibre nouveau dans l'histoire du monde à trouver. Et en fait, le premier axe de De Gaulle, c'est ça. C'est d'essayer de détacher des deux grands blocs des pays en leur disant « mais nous avons des choses beaucoup plus intelligentes à faire ensemble ». Et ensuite, cette idée, pour De Gaulle, évidemment, vous avez parfaitement raison, elle s'appuie sur la notion de nation. De Gaulle ne croit qu'en les nations, c'est-à-dire des entités identifiées dans lesquelles il y a une langue, une culture, parfois une religion et souvent un consentement à être gouverné ensemble.
Alors, le général de Gaulle retourne au Québec. Le général de Gaulle a cette vision des choses. Il croit que le Québec, par ailleurs, ne serait-ce que par parenté historique, est probablement un bon exemple de cette quête des nations pour affirmer leur identité, leur souveraineté. Certains ont dit que le général de Gaulle voulait aussi marquer, je dirais presque même provoquer les États-Unis sur leur propre territoire en disant, d'une certaine manière, aucun continent au monde n'est étranger à la France. Et certes, nous soutenons les Québécois aussi, mais nous vous rappelons que la France a sa propre vision aussi de l'Amérique. Est-ce qu'on peut voir dans sa déclaration une provocation aux États-Unis?
Oui, c'est évident. D'ailleurs, il va le dire plusieurs fois. Il va le dire plusieurs fois au cours de son voyage au Québec, dans lequel il va dire aux Québécois, méfiez-vous de cet État voisin, qui d'ailleurs, entre nous soit dit, par le passé, n'a jamais montré une grande aménité vis-à-vis du Québec, puisque les États-Unis n'ont jamais hésité à envahir le Canada français quand il en était temps. Et donc, bien évidemment, De Gaulle est complètement dans cette idée de provocation. Oui, ça cadre assez bien avec son caractère. En tout cas, cette volonté d'affirmer un fait français en Amérique du Nord, c'était ça qui le fascinait. C'est ça qui a créé, je crois, ce lien très profond entre De Gaulle et le Québec. C'est que il a été fasciné par ces 60 000 Français en 1763 qui, dans des conditions épouvantables, ont réussi à résister à l'occupant anglais et se sont développés, se sont multipliés et ont créé ce grand pays qu'est le Québec. Donc c'est ça qui l'a fasciné.
Alors, De Gaulle est fasciné un peu par le Québec. La question qu'on peut se poser, c'est d'où lui vient cet intérêt? C'est-à-dire, on peut supposer que c'est un homme de culture, qui connaît l'histoire de la France, qui connaît surtout l'histoire des victoires et des défaites de la France, qu'il porte les défaites de la France comme autant de blessures à l'âme. Pourtant, c'est ce qu'on constate, en vous lisant, De Gaulle non seulement connaît le Québec, mais le comprend. S'il ne trouve pas les mots pour le nommer toujours français du Canada, le vocabulaire, il faut dire que la notion de Québécois n'est pas encore complètement cristallisée à ce moment-là dans la conscience collective. Il n'en demeure pas moins que ce peuple, il le comprend. Est-ce que son intérêt pour le Québec date simplement des années 60 ou est-ce que c'est un intérêt plus ancien pour la question du Québec d'une manière ou de l'autre? À quel moment ou dans quelles circonstances finalement croit-il la question du Québec?
Alors, c'est assez compliqué à répondre parce que De Gaulle ne l'a jamais véritablement écrit et ne s'est pas véritablement exprimé là-dessus. Moi, mon sentiment est que lors de son premier voyage à Montréal en 44, donc la guerre n'est pas finie, hein, il va d'abord aux États-Unis rencontrer Roosevelt. Roosevelt qui le détestait.
Oui, oui, bien sûr.
Et qui le considérait comme un général d'extrême droite, possiblement factieux. Donc, il va aux États-Unis et là, il se rend compte de son incroyable popularité aux États-Unis. Et c'est après qu'il se rend à Ottawa, puis à Montréal. Et à Montréal, Adhémar Reynaud, le maire, l'emmène sur le balcon et dit à la foule montréalaise assemblée ici, montrez au général de Gaulle que vous êtes la deuxième ville française. Et je crois que c'est peut-être à partir de là qu'un déclic s'est produit. Il l'écrit d'ailleurs dans ses mémoires de guerre qui sont publiées en 55, donc ce sera un peu postérieur, mais il écrit déjà qu'il ressent un frémissement français. Après, il va parler dans ses mémoires d'espoir de sa visite de 1960 qui est, soyons très clairs, un échec total. Et il n'y a que De Gaulle pour dire qu'il a ressenti un frémissement. Mais je crois que depuis 44, De Gaulle avait compris que au Québec, il y avait quelque chose qui se passait et qu'il y avait un peuple qui avait l'âme chevillée au corps, extrêmement fort, extrêmement solide et qui avait gardé justement ses racines françaises.
Alors De Gaulle, par ailleurs, vous le mentionnez, développe, je ne dirais pas le terme amitié peut-être exagéré politiquement, mais une relation à tout le moins privilégiée avec Daniel Johnson, qui est premier ministre. En fait, c'est le premier ministre qui va être capable de l'amener au Québec. Alors, quand on vous lit, vous nous faites comprendre que à peu près tout le monde, d'une manière ou de l'autre, cherchait à avoir De Gaulle au Québec pour le 100e anniversaire de la Confédération, pour l'Expo universelle. Les invitations pleuvent et pourtant, De Gaulle choisit celle de Johnson. Est-ce que De Gaulle, lorsqu'il accepte cette invitation-là, sait en gros, je dirais pas la formule type « Vive le Québec libre », bon, viendra peut-être plus tard, mais est-ce qu'il sait ce qu'il veut aller faire lorsqu'il accepte une invitation?
Alors, oui, je crois qu'il sait ce qu'il veut faire. En fait, De Gaulle avait été extrêmement intéressé par toute l'œuvre et l'action de Jean Lesage. Le Sage qui avait quand même été reçu deux fois à Paris et qui, dont certains de ses ministres d'ailleurs avaient été reçus personnellement par De Gaulle. Je pense à Paul Gérin-Lajoie, par exemple, le ministre de l'Éducation du Québec qui avait été reçu en tête à tête par le général De Gaulle. C'est quand même pas n'importe quoi. Et en effet, au moment de l'élection d'Ariel Johnson, il y a eu un grand moment d'inquiétude. C'est-à-dire que De Gaulle avait senti qu'il y avait que le Québec était en ébullition avec la Révolution tranquille et il craignait que le retour de l'Union nationale n'aboutisse au retour, ce que les journaux français avaient titré, au retour de la Grande Noirceur. Et assez vite, des tests ont été faits. Des conseillers de De Gaulle, membres du lobby québécois, se sont renseignés. Et finalement, on dit non, Johnson, il est très, très, très respectable. Il faut parler avec lui et il faut le recevoir. Et quand Johnson vient à Paris, donc en mai 67, De Gaulle le reçoit en essayant d'y mettre le maximum de faste. Et il fait, comme il faisait à chaque fois avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas, il tend un petit piège à son invité à la première rencontre. Et le petit piège, c'est De Gaulle qui dit à Johnson « Je connais bien votre pays, j'ai d'ailleurs un très bon ami, c'est le général Vanier. Vous le connaissez, je suppose. » Et Johnson, qui était extraordinairement intelligent, a parfaitement compris le piège que lui tendait De Gaulle et il dit « J'ai beaucoup d'admiration pour les qualités militaires du général Vanier. En revanche, je n'accepte absolument pas ces thèses fédéralistes qui, pour moi, sont insupportables. » Et De Gaulle répond modestement « Ah, oui, je lui ai toujours dit. »
C'est formidable. Et donc Johnson vient voir le général à Paris. C'est lui qui le convainc finalement de venir. Est-ce qu'on sait quels sont les arguments que Johnson va avancer à De Gaulle? Comment réussit-il finalement à vendre cette visite au Québec à De Gaulle?
Alors, De Gaulle déjà détestait s'engager très en avant pour accepter quelque chose. En plus, il avait une certaine forme de réticence à aller à l'exposition universelle de Montréal. Il avait dit de façon un peu rapide, de mon point de vue, il dit « Vous me voyez traverser l'Atlantique pour aller à la foire. » Bon, c'est un peu réducteur, me semble-t-il. Et Johnson, qui sait que De Gaulle a envie mais hésite à y aller, il se doute aussi de tous les obstacles que Ottawa met dans la visite en question, Johnson dit à De Gaulle « Mais mon général, le Québec a besoin de vous. C'est maintenant ou jamais. » Et là, je crois que De Gaulle a compris qu'en effet, il a 77 ans à l'époque. Hein. Son mandat court encore pendant jusqu'en 72. Hein. Mais il se méfie de ce qu'il a si bien appelé lui-même le naufrage qu'est la vieillesse. Et il se rend compte en fin de compte que c'est sans doute sa dernière occasion d'aller frapper un grand coup là-bas pour réparer la lâcheté des rois de France. Et c'est ainsi qu'il accepte, parce que finalement Johnson lui vend cette visite comme vraiment une occasion unique de venir aider le peuple québécois qui est en train d'essayer de conquérir sa liberté et son indépendance.
Alors, De Gaulle, et la formule, donc, vous la retenez même, vous pouvez en faire le titre de votre livre, était convaincu que la France avait une dette à l'endroit des Québécois ou des Canadiens français. Alors, c'est assez particulier parce qu'au Québec même, il y a eu cette querelle qui date finalement de plusieurs décennies. C'est est-ce que la France a été tout simplement vaincue ou est-ce qu'elle nous a abandonnés? Et encore aujourd'hui, traîne dans la conscience populaire ces deux interprétations rivales. Les francophiles nous disent la France n'aurait pas pu faire plus. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, elle a été vaincue. Et les autres disent ben, finalement, nous ne comptions pas pour elle. Pour De Gaulle, il avait tranché, selon lui, la France avait abandonné ses enfants d'Amérique.
Oui, alors c'est vrai que c'est quand même très difficile de trancher. Hein. Il faut se rappeler le contexte de l'époque. On est en pleine guerre de 7 ans. La France a vécu pas mal de défaites au cours de cette guerre de 7 ans. On peut penser au fameux prince de Soubise qui cherchait son armée avec une lanterne. Et en fait, la France est totalement épuisée, est exsangue. Louis XV voit bien que les impôts ont de plus en plus de mal à rentrer. Et lorsque Montcalm et surtout Bougainville qui revient à Versailles pour demander à la Pompadour, qui est encore la favorite à l'époque et que Bougainville connaît bien, des renforts, la Pompadour fait tout ce qu'elle peut, mais Berryer, qui est un des ministres de Louis XV, a cette formule glaçante, il dit mais quand le feu est au château, on ne va pas sauver les écuries. Et on ajoute à cela, et c'est là où je crois que De Gaulle avait ça bien en tête, le détestable rôle joué par l'intelligentsia de l'époque, des Voltaire et autres d'Alembert. Bon, on se rappelle tous de Voltaire et de ces quelques arpents de terre gelés. qui, en fin de compte, était très proche de Choiseul, le premier ministre de l'époque, et qui, la France s'est dit, bon, après tout, c'est laisser tomber le Canada français, c'est pas très très grave. Il y a quand même cet échange un peu curieux au moment du traité de Paris entre, d'un côté, Guadeloupe, Martinique et le Canada français. Bref, c'était quand même une erreur stratégique colossale. C'était une erreur stratégique colossale que d'abandonner le Canada français. Mais là aussi, on peut se dire que, en tout cas de mon point de vue, la première erreur stratégique qui a été commise par la France en la matière, c'est lorsque, en révoquant l'édit de Nantes, Louis XIV a refusé que les protestants puissent en masse aller s'installer au Canada français. Et je veux dire que aujourd'hui, rétrospectivement, on peut un peu rêver que si c'était plusieurs dizaines de milliers de Français protestants qui étaient venus s'installer au Canada français, peut-être que le rapport des forces n'aurait pas été le même avec les Anglais qui eux-mêmes étaient très nombreux et qui avaient laissé tous leurs opposants aller s'installer en Virginie et autour de New York. Et donc, pour Louis XIV, c'était évidemment une faute. Et je dois dire que pour quelqu'un qui avait à ce point le sens de l'histoire de France et qui avait en même temps cette conscience très forte d'être lui-même un élément de l'histoire de France, aller réparer les erreurs qu'avaient faites ses prédécesseurs, c'était quelque chose qui était quand même sacrément tentant.
Et nous allons bientôt à la pause, mais une dernière question avant d'aller à la pause. De Gaulle fait son Vive le Québec libre. Est-ce qu'il croit... Quelles sont les suites selon lui? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'attend à ce que le Québec déclare rapidement son indépendance? Est-ce qu'il s'attend à ce que l'histoire s'accélère devant lui? Est-ce qu'il sera déçu finalement des effets du Québec libre? Autrement dit, est-ce que finalement il a l'impression qu'il a donné un grand coup et que ça donne les effets escomptés?
Alors, il a l'impression d'avoir donné un grand coup. Hein, il le dit d'ailleurs à de nombreuses reprises en disant « Je sais que je vais au-devant de graves ennuis, je sais que je vais être très critiqué. Il a bien vu que la presse française, internationale, anglo-saxonne, canadienne, anglophone tire à boulet rouge sur sa déclaration. Il savait très bien qu'il allait au-delà de très grandes difficultés. Mais il considérait qu'il était de son devoir, justement, de jeter ce cri pour aider les Québécois à se libérer. Il va être extrêmement déçu de voir que Daniel Johnson, sans doute par prudence, sans doute aussi parce qu'il était atteint par une maladie très grave du cœur qui allait l'emporter et qui l'affaiblissait considérablement, avait du mal à embrayer, si je puis dire, et à prendre justement et à aller vers l'indépendance un peu à marche forcée. Ça, il va en être extrêmement déçu, il va avoir des mots extrêmement durs sur Johnson en disant qu'il n'est pas un chef, qu'il ne sait pas profiter des circonstances. Après, dans les années 60, y avait-il beaucoup d'hommes politiques dans le monde qui étaient capables de se hisser à la hauteur du général? C'est pas simple.
Alors, Christophe Tardu, nous allons à la pause pour quelques instants et nous reviendrons, je l'annonce déjà, vous poserez plusieurs questions sur la question de l'accueil international dans la presse internationale de ce Vive le Québec libre. Comment a-t-il été reçu? Chers amis, nous revenons avec vous dans quelques instants à la Vive des idées.
Vous écoutez Radio VM.
Alors, chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées pour cette émission spéciale consacrée aux 50 ans du Vive le Québec libre, où je reçois Christophe Tardieu, qui a écrit La dette de Louis XV, paru il y a quelques semaines aux éditions du Cerf, et qui nous explique finalement dans ce livre, non seulement le sens du Vive le Québec libre, mais il l'inscrit dans la pensée du général de Gaulle, il l'inscrit dans l'histoire du Québec, et il nous donne aussi, et ça ce sont des choses qu'on apprend, qui sont tout à fait neuves, le traitement finalement, l'accueil international de cette déclaration qui a marqué en fait l'histoire du Québec, et qui encore aujourd'hui manifestement a son importance. Alors, nous savions, ça fait partie de la légende québécoise d'une certaine manière, que lorsque de Gaulle dit Vive le Québec libre, on est obligé d'inventer en Chine une nouvelle idée pour être capable de nommer le Québec. Parce qu'il n'y avait pas de terme à ce moment-là, on ne savait pas encore comment nommer ça. Mais dans votre livre, vous nous montrez à quel point le Vive le Québec libre suscite véritablement des passions dans la presse internationale, dans son ensemble, de nombreuses réactions, quelques-unes compréhensives, la plupart sévères. Alors, en général, on pourrait dire, d'abord, on va y aller presque par segment, mais dans la presse anglo-saxonne, comment le Vive le Québec libre est-il accueilli?
Alors, dans la presse anglo-saxonne, ça ne va pas vous étonner, le Vive le Québec libre est accueilli extrêmement défavorablement. Bon, Il y a la presse canadienne anglophone, bon ça c'est pas la peine d'en parler, on s'imagine bien les réactions qui ont pu être les siennes, sans même évoquer des manipulations qui ont pu avoir lieu, sur la photo de De Gaulle remontant dans son avion qui avait été tronquée et le journal titrant « Personne n'est venu lui dire au revoir » alors que chacun sait que sur les images il y avait une foule innombrable sur le tarmac, bref. La presse américaine est extrêmement sévère, pour une raison d'ailleurs assez intéressante à noter, c'est que Lyndon Johnson, le président des États-Unis, qui était empêtré à la fois dans des émeutes raciales extrêmement graves à Detroit à cette époque et par la guerre du Vietnam, Lyndon Johnson, qui détestait lui aussi De Gaulle, n'a pas voulu se positionner sur cette question, sans doute par prudence, pour éviter de recevoir de nouvelles foudres du général un an après le discours de Phnom Penh. La presse américaine va être naturellement furieuse et va voir dans ce « Vive le Québec libre », je crois qu'elle n'avait pas tort, une marque d'anti-américanisme extrêmement fort. Et ça, naturellement, c'est quelque chose que la presse américaine a eu beaucoup de difficultés à supporter. La presse anglaise, naturellement, va être extraordinairement hostile. Mais alors, c'est pour deux raisons. Un, d'abord, parce que les Anglais considéraient à l'époque que le Canada était un peu leur. Je veux dire que... qu'un pays comme le Canada ait encore sa constitution à l'époque hébergée dans un état tiers et qui pouvait la modifier presque à sa guise était quand même quelque chose d'assez surprenant. Et en plus, les Anglais sont absolument furieux contre De Gaulle parce que De Gaulle montre une hostilité totale et absolue à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, donc l'Union européenne d'hier. Et ça, De Gaulle ne voulait absolument pas que les Anglais rentrent dans le marché commun pour une raison très simple, c'est qu'il considérait que les Anglais n'étaient pas européens et que Churchill lui avait formidablement bien dit pendant la guerre, lorsque nous devrons choisir entre le continent et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. Et c'est vrai que la culture, l'histoire de la Grande-Bretagne n'est pas tournée vers l'Europe, il est tourné vers le grand large. Et l'Angleterre s'est toujours montrée en opposition avec le reste de l'Europe et notamment avec la France à travers plusieurs siècles d'affrontements. Donc la presse anglaise est naturellement folle furieuse de cela. Il en va de même pour une partie de la presse européenne qui voit dans ce cri une forme de continuation du refus de la France de voir la Grande-Bretagne intégrer le marché commun. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas au Danemark. Et puis alors, il y a des choses extrêmement intéressantes. C'est dans la presse belge et dans la presse suisse.
Ah mais bien sûr.
Parce que la presse belge, finalement, elle aussi, d'une certaine manière, elle connaît une forme des tourments que le Québec peut avoir. Et c'est évident que la presse belge, elle se dit toujours « Mais que se passe-t-il ? Que se passerait-il si un jour la Wallonie demandait son indépendance ?» Alors, fort heureusement, la presse belge ignorait cette confidence que De Gaulle avait faite un jour à Perfit en disant « Vous savez qu'en 1944, il aurait suffi que je dise un mot pour que la Wallonie soit rattachée à la France. » Bien. Et alors, quant à la presse suisse, c'est exactement la même chose. Mais la presse suisse, c'est pareil. C'est un pays qui est divisé en trois communautés, dont on sait bien que certains cantons peuvent avoir parfois des tendances à vouloir revendiquer l'autonomie. Et donc, la presse suisse est extrêmement sévère. Donc, je crois que si vous voulez qu'à travers le Vive le Québec libre, la presse, dans son ensemble, s'est positionnée à la fois par rapport à cet affrontement entre De Gaulle et les États-Unis, mais aussi par rapport à ses propres tourments et ses propres problématiques de politiques intérieures. Parce que, d'une certaine manière, le Vive le Québec libre renvoie à cette aspiration éternelle des peuples à être maîtres de leur destin.
Et là, il y a une autre presse dont on doit parler inévitablement, c'est la presse française. Alors, la presse française est très sévère. À vous lire, on comprend que De Gaulle va avoir quelques appuis ici et là, bon, évidemment, chez les gaullistes probablement, chez les anti-américains, évidemment, mais plus largement, la presse de droite, de gauche, et se montre très sceptique envers le Vive le Québec libre. Comment, autrement dit, le Vive le Québec libre est-il accueilli par la presse française?
Alors, là aussi, extrêmement mal. Bon, Le Monde tire, qui est le grand journal plutôt de gauche en France du soir, journal dit de référence dans notre pays. Le Monde, par son rédacteur en chef, Beuve Méry, va être d'une sévérité absolue, va parler au sujet de De Gaulle d'hypertrophie du moi, va être extrêmement critique vis-à-vis de cela, en considérant que le général avait, une fois de plus, lancé une grande formule à la face du monde sans la maîtriser, sans véritablement avoir d'objectif. Bon. Ce n'est d'ailleurs, entre nous soit dit, qu'une preuve supplémentaire de l'opposition très, totalement politique qu'il y avait entre De Gaulle et le journal. La presse de droite, notamment le Figaro, est extrêmement sévère. Et alors ça, c'est très intéressant parce que le Figaro est un journal de droite, mais un journal de droite dans lequel vous avez à la fois des gaullistes et à la fois, on va dire, des traditionnalistes souvent un peu réactionnaires. Et notamment, il y avait à cette époque, n'oublions pas qu'on est 5 ans après la guerre d'Algérie, il y avait encore beaucoup en France de tenants de l'Algérie française et de qui s'étaient donc très fortement opposés à De Gaulle pour deux raisons. Un, parce qu'il y avait encore quelques nostalgiques du pétainisme et aussi quelques nostalgiques de l'Algérie française. Et donc le Figaro va avoir cette attitude absolument incroyable qui est que Grandin, c'est lui qui va inventer la théorie de De Gaulle a lancé ce cri comme une sorte de test en disant tiens je vais leur faire plaisir, je vais leur jeter vive le Québec libre, alors que tout démontre que cette phrase avait été naturellement totalement préméditée par De Gaulle. Et puis deuxièmement, le Figaro, par la bouche d'André-François Poncet, qui est un ancien ambassadeur de France sous l'Italie mussolinienne et l'Allemagne nazie, on en a profité pour critiquer vertement cette visite en considérant que De Gaulle avait nié toutes les convenances habituelles, qu'il aurait dû commencer par Ottawa, qu'il n'y a plus de politique étrangère française, que la France fait n'importe quoi. En fin de compte, c'est d'une certaine façon, de mon point de vue, de la part de la presse française, une forme, d'une part, de totale méconnaissance de l'histoire du Québec, mais qui était malheureusement partagée avec la population française à l'époque, et puis surtout, une incapacité intellectuelle à comprendre là où De Gaulle voulait aller.
Et pourtant, il y a quelques soutiens dans la presse française au général De Gaulle. Si je comprends bien, c'est en partie chez les communistes.
C'est ça qui est intéressant. Alors, je crois que les communistes avaient très bien compris que De Gaulle, en disant « Vive le Québec libre », faisait une manifestation assez forte d'anti-américanisme. Et en cela, ça leur a plutôt plu. Et en plus, que ce soit par exemple Humanité ou Témoignage chrétien, dans les deux cas, ils reconnaissent que De Gaulle, en disant « Vive le Québec libre », est venu au secours de la population du Québec, dont on sait bien qu'à cette époque, elle était dans une condition économique, sociale et sociologique, volontairement dans un état d'infériorité par les anglophones.
Vous évoquez tantôt cette espèce de théorie loufoque qui circule encore aujourd'hui, étrangement, de ceux qui disent, en fait, De Gaulle n'a pas vraiment voulu dire qu'il souhaitait l'indépendance du Québec. Vive le Québec libre, ce n'est rien d'autre que ce sont des mots sans profondeur historique ni politique. Or, on sait que quelques mois, je crois que c'est en novembre 67, De Gaulle, dans une conférence de presse, va approfondir sa réflexion sur le Québec libre. Il va expliciter finalement sa vision sur le Québec libre. Que nous dit-il dans cette conférence de presse, finalement très importante, parce qu'elle donne le sens d'un événement qui date d'il y a à peine quelques mois?
Alors d'abord, c'est une conférence de presse extrêmement importante en matière de politique étrangère, puisque De Gaulle va d'une part rappeler sa volonté absolue de refuser l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Deuxièmement, nous sommes quelques mois après la guerre des Six Jours, De Gaulle va rappeler dans des termes extrêmement forts et fait un résumé brillantissime de l'histoire des conflits au Proche-Orient au XXe siècle, au cours duquel il va fonder la politique arabe de la France. La politique étrangère arabe de la France date de cette conférence de presse de 67. Et enfin, De Gaulle va parler de son voyage au Québec, dans lequel il va faire beaucoup rire les journalistes en disant que tout au long que les Québécois avaient appelé le chemin du roi parce qu'ils espéraient qu'un jour un président de la République française viendrait à le parcourir. Mais surtout, en dehors de la boutade, parce que ça c'était une boutade, De Gaulle explique de façon mais extrêmement claire, il dit, de mon point de vue, la constitution canadienne est morte, il faut passer à autre chose et il faut donner un nouveau statut au Québec qui est, à l'évidence, un pays qui doit prendre en main ses destinées.
Alors, le général de Gaulle a cette conception, vous l'avez évoqué à quelques reprises, une conception de l'ordre du monde qui donne l'importance aux nations, qui veut affranchir finalement les nations des grands blocs idéologiques qui les gardent sous tutelle d'une manière ou de l'autre. Si on se dégage un instant seulement de la question seule du Québec libre, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure la politique française était marquée par l'empreinte gaullienne? C'est-à-dire, est-ce qu'après le général de Gaulle, au-delà de la seule question du Québec, cette idée que la France a un rôle international particulier à jouer en faisant valoir l'indépendance des nations, en défendant leurs droits, leur continuité culturelle finalement. Est-ce que l'empreinte gaullienne a structuré durablement la vie politique ou la politique étrangère française, ou est-ce que le gaullisme est une forme de boussole qu'on se fait un devoir de ne pas suivre tout en faisant semblant d'y croire?
C'est un peu les deux en même temps. C'est-à-dire que il y a d'une part, en effet, après De Gaulle, il y a une volonté de normalisation qui apparaît. Pompidou est le premier à accepter l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Je dois dire que aujourd'hui, juste après le Brexit, ce sont des choses qui font quand même un peu sourire et qui démontrent que De Gaulle avait une fois de plus eu raison avant tout le monde. Peut-être que les élites anglaises voulaient rester dans l'Europe, mais le peuple britannique lui-même ne s'est jamais senti européen et ne s'est jamais senti à l'aise dans cette Europe à 28 pays. Et il y a alors la politique arabe de la France, oui, c'est clairement De Gaulle qui l'a créée, et cette politique étrangère très de rapprochement vis-à-vis des pays arabes, c'est quelque chose qui perdure et qui est vraiment une spécificité extrêmement forte de la politique étrangère française. Et puis de temps en temps, il y a des ferments gaulliens qui apparaissent. Je pense par exemple au remarquable discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies, dans lequel il dit aux Américains qu'il refuse que la France s'embarque dans la guerre en Irak, en expliquant qu'il y a d'autres solutions et en refusant de s'aligner sur la position de George Bush fils et des néoconservateurs. Il y a de temps en temps des réflexes gaulliens qui apparaissent. Après, je crains malheureusement que ce soit davantage des réflexes qu'une véritable politique en tant que telle.
Vous évoquez d'ailleurs dans le livre, notamment dans la réaction d'une partie de la droite française par rapport au général de Gaulle, une forme de tension entre d'un côté le général qui a une vision qui transcende, appelons ça, un pragmatisme au quotidien, un empirisme plat, et de l'autre côté, et vous me corrigerez si je vous ai mal lu, mais une droite qui serait un peu effrayée à l'idée de grandeur de la France, dans laquelle elle ne voit rien d'autre qu'une forme de délire idéaliste, d'une volonté de un manque de réalisme, finalement, un manque de capacité de s'adapter au réel de notre temps. Donc, vous évoquez, je crois, mais vous me corrigerez, un grand écart, finalement, entre De Gaulle, qui, bon, n'est pas un homme de gauche, mais qui est d'une droite qui transcende. C'est la formule de Marc Crapez qui dit De Gaulle, c'est la droite, toute la droite, mais pas seulement que la droite. Donc, il transcende une certaine vision de là. Et de l'autre côté, une forme de réalisme aplati qui dit, méfions-nous de tout ce qui nous dépasse, ça pourrait nous écraser. Et est-ce que cette tension-là que vous semblez évoquer s'applique aussi au cas du Québec à ce moment-là?
Évidemment. Évidemment, il y a dans la droite française une droite, on va dire, composée de la petite bourgeoisie, qui est évidemment très hostile à toutes ces grandes manifestations de grandeur. Mais c'est d'une certaine façon l'héritage du pétinisme sans la collaboration et sans l'antisémitisme, c'est-à-dire cette France petite bourgeoise qui est plus habituée à raccommoder et rapiécer qu'à dépenser, les gens qui se méfient de tout ce qui peut être la grandeur. C'est un peu cette droite versaillaise, vous voyez, cette droite qui a du mal à accepter la notion de grandeur, qui a du mal à s'élever au-delà de sa propre condition. Et c'est évident que De Gaulle n'est pas du tout compris dans cette partie de la droite française, qui est une droite traditionnelle, traditionaliste, et qui surtout se méfie toujours des envolées, parce que la grandeur, on ne sait jamais jusqu'où ça peut nous mener.
Alors, il y a ce mot très important, on vient de le mentionner, grandeur. Alors, pour me passionner depuis toujours sur le gaullisme, c'est un terme que je trouve passionnant, qui a une puissance hypnotique. Mais lorsque vient le temps de définir qu'est-ce que la grandeur gaullienne, nous, on bascule à peu près toujours dans le langage des métaphores. C'est-à-dire, alors je vous pose la question, quand De Gaulle parle de la grandeur de la France, qu'est-ce qu'il veut dire d'une certaine manière? Qu'est-ce qu'on doit comprendre lorsqu'il parle de la grandeur de la France, alors que c'est un concept qui est essentiel dans sa politique?
Essentiel. Je crois que De Gaulle, et d'ailleurs il le dit très bien dans ses mémoires, De Gaulle s'est toujours fait une certaine idée de la France. Et je crois que tout part de là. Et que pour lui, c'est son histoire, sa culture, son éducation. Pour lui, la France, ce n'est pas un pays comme les autres. C'est un pays qui, pour lui, a une mission particulière de par le monde. C'est un peu ce que disait d'ailleurs très, très joliment André Malraux quand il disait « La France n'est elle-même que lorsqu'elle porte une part de l'espérance du monde ». Et donc De Gaulle, d'une certaine façon, est habité par ce côté messianique de sa vision de ce qu'est la France. Pour lui, la France, c'est le pays qui a apporté une forme, les lumières aux nations. C'est la France, il le dit d'ailleurs au sujet du Québec, il dit c'est la France qui a inventé le principe de l'autodétermination. Pourquoi est-ce que les Québécois se verraient refuser de se le voir appliquer? Et donc, pour lui, c'est évident que cette grandeur de la France, pour lui, c'est ce rôle particulier de ce pays qui, il est vrai, a, alors c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'on qualifie facilement les Français d'arrogants, on n'a pas toujours tort d'ailleurs, mais pour lui, la France, c'est quand même un pays qui doit apporter quelque chose aux autres nations.
Est-ce qu'on peut, alors vous utilisez le terme d'arrogance qui revient quelquefois, est-ce que néanmoins on peut dire que pour se tenir devant les deux blocs à l'époque, ce qui est quand même quelque chose, il y avait d'un côté les Soviétiques, de l'autre côté les Américains, est-ce que pour croire que la France avait justement vocation à être autre chose qu'une province raffinée de l'Empire occidental, est-ce qu'il ne fallait pas justement cette part d'arrogance, cette psychologie, cette forme d'obstination, cette capacité à dire qu'on va regarder face à face n'importe qui, même les géants?
Bien sûr, ça ne peut vouloir se confronter aux États-Unis ou à l'Union soviétique à l'époque, c'était forcément avoir une attitude extraordinairement arrogante. Après, n'oublions jamais une chose, c'est que de Gaulle et pas mal d'ailleurs des généraux stratèges qu'il avait autour de lui n'avaient qu'une seule crainte, c'était qu'un jour les soviétiques n'envahissent l'Europe et s'entendent avec les États-Unis pour ne surtout pas toucher aux États-Unis, au territoire américain, mais en revanche fassent en sorte que l'Europe devienne un vassal du bloc soviétique. Et je dois dire que quand De Gaulle veut créer une force de frappe indépendante, c'est aussi pour pouvoir, en cas d'envahissement par les soviétiques, pouvoir riposter et provoquer suffisamment de dégâts de l'autre côté du rideau de fer pour dissuader les soviétiques d'aller plus loin. De Gaulle ne faisait aucune confiance dans les Américains. Et je dois dire que les exemples de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale ne l'avaient sans doute pas rassuré. Parce que finalement, on voit bien que tant lors de la Première que de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ne se mettent dans le conflit qu'assez tard. Et c'est uniquement lorsque leurs intérêts, notamment économiques, commencent à être mis en cause que ces derniers agissent. Alors certes, il y a eu Pearl Harbor au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais néanmoins, cette entrée assez tardive des États-Unis démontre bien qu'ils se préoccupaient finalement assez peu du sort de l'Europe.
Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Je vous ramène au cœur de notre sujet directement. C'est sur ce voyage le long du chemin du roi. Alors, c'est une chose qui a souvent été mentionnée. On peut le voir dans le film de Labrec sur le Québec, ouais. La visite du général de Gaulle au Québec. On peut le voir dans le film de Karl Leblanc, Le chemin du roi. C'est l'incroyable enthousiasme populaire lorsque le général de Gaulle vient ici, comme s'il y avait des retrouvailles profondes et sincères qui étaient qui se manifestaient enfin après tant et tant d'années d'attente, peut-être tant et tant d'années aussi d'absence. Lorsque vous avez étudié ce sujet, vous avez étudié tous les discours le long du chemin du roi, vous sentez aussi dans l'étude la visite du général de Gaulle au Québec, cet enthousiasme populaire, et qui comprenez-vous?
C'est un enthousiasme incroyable, indescriptible. Et d'ailleurs, De Gaulle, ça lui sera reproché, hein, le soir de son discours à l'hôtel de ville de Montréal. Il va dire à la population, ce soir, ici et tout le long de ma route, je ressens une atmosphère du même genre que celle de la libération. Et moi, je crois que c'est peut-être le seul moment où De Gaulle a un peu lâché prise. Et qu'il s'est laissé peut-être un peu emporter par son enthousiasme, l'enthousiasme qu'il avait de l'accueil qu'il a reçu. En 44, quand De Gaulle descend les Champs-Élysées pour aller jusqu'à Notre-Dame pour écouter un Tédéum, fêtant la libération de Paris, il a dit « c'est la mer », parce qu'il y avait des gens absolument partout. Et d'une certaine façon, sur le chemin du roi, comme à Montréal, c'était aussi la mer. Il y avait un enthousiasme absolument incroyable.
Sentiment de libération aussi,
probablement. Et un sentiment de libération qui était nécessairement lié. Et donc, vous l'avez très bien cité, les deux documentaires de Labrec et Leblanc, qui sont absolument remarquables en la matière et qui décrivent très bien ce qui s'est passé, c'est que partout où De Gaulle est passé, il y avait un enthousiasme incroyable. Et je crois que cet enthousiasme, il était dû avant tout parce que c'était d'une certaine façon des retrouvailles entre la vieille France et la nouvelle France. C'était ce grand personnage de l'histoire, parce que De Gaulle est le grand Français du XXe siècle, qui était revenu en Nouvelle-France. D'une certaine façon, c'était presque un retour de la mère patrie, un retour des racines. Pour les Québécois, je crois que le mot racine, c'est quelque chose de très important pour vous. Il suffit de voir d'ailleurs toutes ces recherches généalogiques absolument passionnantes que vous menez pour essayer de savoir d'où viennent vos familles de France. Et donc voilà, ce retour des racines, cette personne qui incarnait si bien la France, cette France éternelle, cette France qui avait vaincu, et aussi, et c'est là où je crois que l'osmose s'est faite, cette France de Gaulle qui incarnait la France qui a résisté. Et c'est donc le premier des résistants en France qui était allé rencontrer des descendants de Français qui avait formidablement résisté. Et c'est en cela que ça a créé cet enthousiasme absolument incroyable.
Alors, il nous reste à peine 5 minutes. Je vais me permettre une question sur, appelons ça plus largement, l'héritage gaullien dans le monde d'aujourd'hui. Alors, quand on se tourne sur le 20e siècle, vers le 20e siècle, il y a de grands personnages qui s'en dégagent. Churchill, très certainement. Roosevelt, qui, à sa manière, a incarné aussi la capacité des Américains à se mêler d'une guerre qui n'était pas immédiatement la leur, mais dans un esprit de libération démocratique. Pourtant, il y a néanmoins quelque chose comme une marque gaullienne singulière, quelque chose qui distingue le général des autres grandes figures du 20e siècle. Alors, je vous pose la question sans préciser ce qu'on pourrait entendre. Est-ce que je me trompe, premièrement, en disant qu'il y a une marque singulière du général de Gaulle? Et quelle est cette marque, s'il y en a une? Et qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on se tourne vers lui à la manière d'une référence, d'un modèle? Qu'est-ce qu'on trouve encore chez lui qu'on ne trouve, non, évidemment pas chez nos contemporains, mais qu'on ne trouve pas non plus chez ses propres contemporains?
Je crois que ce qui est très fort chez De Gaulle, c'est que, d'une certaine façon, il a sauvé par deux fois la patrie. Une première fois en partant à Londres et en ayant vu dès 1940 que les Allemands perdraient la guerre. Ça, il en était absolument persuadé. Et une deuxième fois, lorsqu'il revient au pouvoir en 1958, et où, quand même, il donne à la France sa constitution la plus stable, qui a créé des institutions qui fonctionnent encore aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a quelques hurluberlus qui parlent d'une 6e République ou des choses de cette nature, mais ça ne veut rien dire. Les institutions de la 5e République se sont adaptées à toutes les périodes, à tous les régimes, à la cohabitation, aux différentes couleurs politiques de nos gouvernants. Et puis surtout, De Gaulle, et c'est là où il apporte une marque absolument incroyable. Churchill en est assez proche aussi. C'est quelqu'un qui a incarné un pays d'une façon extraordinairement forte. C'est quelqu'un qui l'a symbolisé aussi bien chez lui qu'à l'international. Comme il le disait lui-même, mon seul concurrent à l'international, c'est Tintin. Et je dois dire d'une certaine manière qu'à travers cette boutade, De Gaulle signifiait qu'il était un personnage à la fois incarnant le pays, incarnant la France et une sorte de monstre sacré du XXe siècle qui a apposé sa marque d'une façon indélébile.
Et quand on le regarde aujourd'hui encore en France, ça demeure, parce que je devine qu'un jour, le général de Gaulle ne sera plus il n'y aura plus de famille politique gaulliste. Un jour, ce terme sera un mot très important de l'histoire de France, mais ne déterminera plus sa politique. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui encore, au-delà des institutions, le gaullisme demeure une forme d'inspiration dans la politique française, au-delà de la révérence obligée devant le général mythique?
Oui, alors il faut toujours des révérences obligées. Il faut dire qu'en France, vous avez raison de souligner que je crois que ça fait de très nombreuses années qu'il n'y a plus de parti gaulliste. Je suis d'ailleurs assez effrayé d'entendre certaines personnes d'extrême droite en France, comme Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Philippot, se revendiquer du gaullisme. Je rappelle que les fondateurs du Front National en France faisaient quand même partie de ceux qui avaient tenté d'assassiner le général de Gaulle pendant la guerre d'Algérie. Donc de Gaulle est une référence obligée dans le monde politique français aujourd'hui, mais avec une, soyons très clairs, une totale et absolue hypocrisie. Après, vous l'avez souligné vous-même, De Gaulle laisse une trace en France qui est une trace extrêmement forte, que ce soit les institutions, que ce soit ce qu'on évoquait en termes de politique étrangère, par exemple la politique étrangère arabe de la France, et aussi dans cette volonté absolue de démontrer que la France est un pays qui parfois sombre dans les abîmes, mais qui aussi parfois sait faire de très grandes choses. Et lorsqu'on va vers les sommets, eh bien c'est souvent là où on se rapproche du général.
Il nous reste 2 minutes. Je vous pose une dernière question. De Gaulle, bon, les retrouvailles franco-québécoises étaient commencées depuis le début des années 60. De Gaulle a consacré ses retrouvailles franco-québécoises. Il a internationalisé la question du Québec. Encore aujourd'hui à l'étranger, quelquefois, dès qu'on dit qu'on vient du Québec, le mot Québec libre. Alors c'est comme si finalement le Québec n'existait que parce qu'on a appris au monde qu'il voulait peut-être un jour devenir indépendant. Néanmoins, la question se pose, 50 ans après le Québec libre, que reste-t-il des retrouvailles franco-québécoises? Est-ce que les relations se sont véritablement nouées intimement? Est-ce que la relation franco-québécoise s'est solidifiée? Est-ce qu'il reste quelque chose, finalement, de l'œuvre du général de Gaulle dans les relations France-Québec?
Oui, incontestablement. Il y a, après, quelques mois après le Vive le Québec libre, il y a eu tout ce travail formidable qui a été mené, où ont été créés l'Office franco-québécois de la jeunesse, où ont été créés des accords en matière d'éducation, en matière de coopération. C'est évident que c'est c'est à partir de ce discours que se fonde véritablement le rapprochement entre nos deux pays. Après, je crois que ce n'est qu'une question de volonté. Ce qui est toujours très frappant en France par rapport à ce qui se passe ici au Québec, c'est que finalement, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je crois savoir pourquoi. Mais dès qu'un Français et un Québécois se parlent, ils se comprennent immédiatement parce que ce n'est pas seulement une langue qu'ils partagent, c'est aussi une culture commune, une histoire, des valeurs. Et je crois que dès qu'une volonté se manifeste, la coopération entre la France et Québec, c'est quelque chose de totalement naturel. Donc j'espère que l'héritage gaullien, il se poursuivra à travers ce caractère totalement naturel des relations très étroites qui doivent se nouer entre la France et le Québec.
Alors Christophe Tardieu, je vous remercie infiniment pour votre passage aujourd'hui à La Vie des Idées. Et chers amis, alors c'était évidemment, vous l'aurez noté, une émission spéciale pendant l'été. Nous diffusons des rediffusions de nos meilleures émissions de la saison. Mais c'était une émission spéciale parce que nous tenions à célébrer les 50 ans du Vive le Québec libre avec Christophe Tardieu qui a écrit le livre La dette de Louis XV aux éditions du Cerf que je vous conseille avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, merci pour votre passage ici.
Merci beaucoup.
Et chers amis, nous nous retrouvons à la semaine prochaine pour d'autres diffusions de La Vie des Idées et au plaisir de vous retrouver en ondes en direct en septembre à chaque semaine pour poursuivre l'exploration de La Vie des Idées au Québec et ailleurs dans le monde. Chers amis, merci.